Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine, dans Escale, nous honorons notre devoir de mémoire vis-à-vis de l'Holocauste. Plus de 65 ans après ces tragiques événements, il est toujours important d'en raviver la mémoire, de les rendre accessibles et humains, ne serait-ce que pour assurer qu'ils ne se reproduisent plus jamais. Nous irons donc à la rencontre de personnes concernées à divers degrés par l'exposition « Un monument de bonnes actions, rêves et espoirs d'enfants pendant l'Holocauste », exposition tenue récemment au siège des Nations Unies à New York. Chaque année, depuis 2006, les Nations Unies consacrent le 27 janvier, date de l'anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, à la mémoire de l'Holocauste, l'occasion de rappeler les dangers de la discrimination et de l'intolérance. Cette année, le thème retenu, les enfants et l'Holocauste, attire l'attention sur le 1,5 million d'enfants victimes de la Shoah. Une exposition intitulée « Un monument de bonnes actions, rêves et espoirs d'enfants pendant l'Holocauste », retraçant la vie de 13 enfants qui ont subi l'Holocauste, a été organisée au siège des Nations Unies à New York. La radio des Nations Unies s'est rendue sur les lieux du vernissage. Yehudith Inbar, commissaire de l'exposition et conservatrice en chef du musée Yad Vashem, explique l'idée force de l'exposition.
1,5 million d'enfants ont été assassinés et il n'y a rien d'eux. Et ils ont été des enfants comme notre enfant. Et ils avaient des rêves et des espoirs. Ils étaient assassinés pour rien, seulement pour être juifs. Et dans cette exposition, je voulais montrer qu'ils étaient des petits-enfants. Ils ont chanté, ils ont dessiné. Et ils avaient écrit des lettres, des diaries, etc. Et vous avez Marc Lau, qui je présente dans l'exhibition. Marc avait 8 ans et rien ne reste de lui. Alors j'ai mis son photo et pour moi, il ressemble à tous les enfants qui ne restent plus rien d'eux. Mais tous ces enfants étaient des enfants et ils avaient l'espoir et l'imagination. Comme des enfants de toujours. Et comme vous voyez des choses comme ça, vous devez demander pourquoi ? Pourquoi ? Comment c'est possible ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Je ne comprends ça, même aujourd'hui.
L'histoire de Marek Laub illustre la première des 13 vies volées à laquelle l'exposition rend hommage. Marek a été tué dès son arrivée à Auschwitz-Birkenau le 14 mai 1944 à l'âge de 8 ans sans laisser de traces. Il symbolise pour autant le sort anonyme des enfants de la Shoah. Mais si son histoire a pu être racontée, c'est en grande partie grâce à sa demi-sœur, l'auteure et poète israélienne Michal Govrin, qui a su retisser son histoire. Elle était présente lors du vernissage.
Madame Yehudith Inbar m'a adressé en me racontant qu'elle va faire cette exposition qui sera basée sur les objets qui ont survécu. Si on peut dire ça, des objets, des dessins, des rêves écrits, des poèmes. Et à ce moment-là, j'ai pensé à mon demi-frère, le fils de ma mère, qui est mort à l'âge de 8 ans, assassiné à Auschwitz, dans les chambres à gaz, avec tout le groupe d'enfants qui étaient envoyés du camp de concentration de Plaszów, à côté de Cracovie, qui étaient sortis du camp en camion, directement vers les chambres à gaz. Son histoire était horrible, de peu que je savais. Il n'y avait rien qui restait de lui, sauf une photo de l'âge de 3 ans. Et à ce moment-là, j'ai proposé d'écrire un texte sur l'enfant qui n'a pas laissé de traces. Et en écrivant cela, a posteriori, j'ai compris qu'en fait, j'ai proposé un portrait dans lequel peuvent s'insérer plus qu'un million d'enfants qui ont tous été assassinés sans laisser de traces. Moi, je suis née à ma mère par son deuxième mariage. Elle a survécu les ghettos de Cracovie, les camps de Plaszów, Auschwitz, Birkenau, la marche de mort et Bergen-Belsen.
Est-ce que, justement, l'expérience de votre mère, l'absence de ce demi-frère, était présente dans votre enfance à vous ?
Je dois vous avouer que dire « mon frère » n'est pas une chose naturelle pour moi parce que je ne connaissais pas sa présence toute mon enfance. Je savais qu'il y avait un enfant qui existait. Je ne connaissais pas les détails. Ce sont des années après la mort de ma mère, qui n'a rien raconté, qui est morte dans le silence, que j'ai découvert par des témoignages de femmes qui ont survécu avec elle, dans les archives, morceau par morceau, des bribes de l'histoire. Par tous ces détails, j'ai pu tisser une sorte de témoignage dans lequel, même pour moi-même, je me suis ramené ce frère que je n'ai jamais connu, dont je ne savais presque rien, et qui maintenant devient de plus en plus présent pour moi. Et vous pouvez imaginer le vertige de passer de ce silence, d'abord du meurtre, du silence, jusqu'à être l'image qui inaugure une exposition aux Nations Unies. Le vertige et le rôle de raconter, de transmettre.
Ici, c'est le devoir de la mémoire. Vous avez grandi dans le silence par rapport à ces événements. Qu'est-ce que signifie la mémoire pour vous alors ?
Je vois le devoir de savoir comment articuler, comment pouvoir faire face à ces secrets, à ce silence. Très souvent, la mémoire officielle était une manière aussi de fermer, de raconter ce qui est racontable, mais qu'est-ce qui est derrière. Et comment, en fait, rendre que la mémoire soit pas seulement un devoir et quelque chose de figé, mais quelque chose qui nous touche dans l'intimité, auquel on peut faire référence, qu'on a un choix dans la vie, un choix presque quotidien. Si on a une manière de penser à tel ou un tel, à un moment que quelqu'un a fait un choix vers l'humanité, tandis que l'autre a fait un choix vers la perte de l'humanité, si on arrive à articuler ça d'une manière la plus intime, je crois que peut-être cet événement qui est incompréhensible dans la cruauté, comment on peut comprendre 1,5 million d'enfants envoyés à leur mort, c'est au-delà de notre compréhension. Mais comment toucher cela, comment faire que ça nous habite avec aussi un défi d'humanisme. C'est l'humanisme, c'est pas la mémoire, parce qu'on peut aussi se rappeler des horaires. Comment se rappeler de la force de l'humain au fin fond de l'enfer, de garder la face humaine, au moment que les autres l'ont complètement perdue.
Au-delà du devoir, comment rendre la mémoire de l'Holocauste plus vivante ? Comment lui redonner une dimension humaine pour la rapprocher de notre quotidien ? Peut-être en écoutant les enfants eux-mêmes, héros involontaires de l'exposition, à l'instar de Moïse Ziv Flinker, dont Guylain Sitbon traduit actuellement le journal intime au français. Guylain Sitbon.
Il a commencé son journal en septembre 1942, lorsque il s'est réfugié avec sa famille à Bruxelles, et il a tenu son journal pendant plusieurs mois. Il a ensuite été arrêté à la veille de la Pâque juive en avril 1944 sur dénonciation, et il a été arrêté avec sa mère et ses deux sœurs aînées qui étaient présentes dans l'appartement au moment où la Gestapo est venue les arrêter. Son père a été arrêté un peu plus tard après avoir mis ses autres enfants à l'abri dans un orphelinat en Belgique. Ils ont ensuite été déportés à Auschwitz. La mère de Moïse Flinker a tout de suite été exécutée dès son arrivée à Auschwitz. Ses deux sœurs ont été déportées dans des camps de travail et ont eu la chance, si je puis dire, de revenir de cette déportation. Mais lui et son père sont morts en 1945 après avoir traversé d'autres camps de travail et d'autres camps d'extermination, puisqu'ils ne sont pas morts à Auschwitz, mais ils sont morts à Bergen-Belsen en 1945. Ce que nous dit le journal, en fait, de Moïse Flinker, c'est quelque chose de très émouvant, parce que on y trouve, pour un garçon de l'âge de 16 ans, une maturité politique, morale et affective tout à fait impressionnante. Il s'identifie totalement au destin de son peuple. Il y a une coïncidence absolument bouleversante entre son destin individuel et le destin collectif. Il a une culture générale et historique qui est très étendue pour son âge, qui lui permet de faire des analyses de ce qui est en train de se passer. Il a une capacité visionnaire qui lui fait comprendre le caractère salvateur et rédempteur de la future création d'un État qu'il appelle l'État d'Israël dans la Palestine mandataire. Et même s'il n'a aucun contact avec la réalité du terrain, qu'il n'a pas connu à proprement parler, sauf à travers les livres et les journaux, mais il en a une conscience suffisante pour comprendre que dans la Palestine mandataire, vivent côte à côte des Juifs et des Arabes. Et il dit, nous sommes tous enfants d'Abraham, et à partir du moment où il comprend la nécessité et l'importance de cette coexistence entre Juifs et Arabes, lui qui, à 16 ans, est réfugié, obligé de se cacher dans Bruxelles, occupé, prend le risque inouï de parcourir les librairies de Bruxelles à la recherche d'un manuel d'arabe. Et il se met à apprendre tout seul la langue arabe. Et il y a une grande partie de son journal qui est consacrée à ses exercices d'arabe.
Dans ces textes, qu'est-ce qui vous a le plus convoité, touché ?
Ce qui m'a paru le plus touchant dans les textes, c'est qu'on ressent à travers plusieurs pages les débats qu'un jeune homme de 16 ans peut avoir, y compris sur le judaïsme et sur la religion, et sur une jeune fille qu'il a aimée pendant la période où il vivait à La Haye. Il se confie à son journal. Alors, il raconte son vécu, il parle de ses journées, quelquefois qui sont des journées vides et sans intérêt. Ça a des côtés très concrets et très émouvants en même temps. C'est vraiment un journal de tous les jours.
Nelly Toll est une survivante de la Shoah. Elle a passé 13 mois de son enfance aux côtés de sa mère, cachée dans une chambre de l'appartement d'une famille chrétienne de sa ville natale, de Lodwów, en Pologne. Sa mère l'encourageait à peindre, à écrire des contes et à tenir un journal intime. Des contes et des dessins qui figuraient dans l'exposition et qui illustrent le contraste entre son monde imaginaire et la réalité. Elle était présente le soir du vernissage et est revenue sur son histoire.
Nous étions cachés dans l'appartement et ma mère m'a acheté des aquarelles et j'ai commencé à peindre des scènes imaginées. Et cela m'a occupée et j'en ai fait plus de 65. J'ai commencé à écrire ces petits contes. Comme la porte était toujours fermée à clé, je m'inventais des histoires et vivais dans ce monde imaginaire. Là, c'est l'incident chanceux. Ça, c'est la méchante belle-mère. Vous la voyez? Je m'en souviens encore. Elle se promène pour tenter de trouver la reine, et quand elle trouve le palais, c'est ça l'incident chanceux. Ma mère m'a dit, on survivra et tu continueras à peindre après. Et ce fut ainsi.
Est-ce que cela vous a humanisé?
Ça, c'est une question pour les adultes. Mais c'est une question difficile. Moi, j'étais une enfant très jeune. Est-ce que ça m'a humanisé? J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que je croyais et j'étais très proche de ma mère. Et je tenais un journal avec d'un côté mon monde imaginaire et de l'autre la réalité. La réalité était assez dure. Nous étions enfermés dans une chambre et quand la police arrivait, nous devions nous cacher dans un espace, dans une fenêtre. À chaque fois que la police venait, le monsieur disait « Attendez, je cherche la clé » et nous nous cachions dans cette fenêtre. Et il fallait attendre que la tapisserie qui cachait la fenêtre arrête de bouger. C'était très dangereux. Et à chaque fois que la police partait, et ils sont venus plusieurs fois, ma mère disait « Tout va bien se passer ». Quand je vous parle aujourd'hui, c'est en rétrospective. Si j'y pense, je dirais que cela m'a bien occupée et contentée, et j'ai pu oublier le danger dans lequel nous vivions.
La fille de Nelly Toll, Sharon Toll, était à ses côtés lors du vernissage. Qui de mieux placé pour parler du message que lègue sa mère?
Elle peut témoigner de ce que c'est que de survivre et de l'importance de ne pas abandonner. Une enfant créative, avec beaucoup d'imagination, qui a refusé de succomber à ce qui se passait dans le monde qui l'entourait.
Et c'est ainsi que s'achève notre tournée des rêves et espoirs d'enfants juifs pendant l'Holocauste, en espérant qu'elle aura su rendre vivante et intime la mémoire de l'Holocauste et contribuer à renforcer notre humanité. Escale vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero, avec la collaboration de Maha Fayek, Frédéric Choignard et Florence Westergaard. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.